Le journal de Midi Yakar présenté par Régis Meria, bonjour.
Bonjour, Velafrica lorgne sur les vélos biennois. L'association qui récolte chaque année plus de 40 000 vélos en Suisse organise pour la première fois un grand ramassage dans la cité célandaise du 17 au 19 juin. Les bicyclettes récupérées seront réparées puis envoyées en Afrique. C'est reparti pour un été de lecture les pieds dans l'eau. La cabane à livres de l'opération de Nage en Page a repris du service à la piscine de Tramelan. Lancée en 2017 par la médiathèque du CIP et l'association des livres en liberté, l'initiative entame sa 9e édition. À Neuchâtel, la pluie n'a pas freiné les bénévoles de Festineuch. Sur les nouvelles Jeunes Rives, le montage de cette 24e édition du festival neuchâtelois avance sans retard, malgré une météo capricieuse la semaine dernière. Au total, plus de 1600 bénévoles sont mobilisés cette année pour le montage, le démontage et durant l'événement. Météo, un temps estival pour ce lundi de Pentecôte. Le ciel restera bien dégagé tout au long de la journée et les températures atteindront 22 à 23 degrés. Pour la suite de la semaine, ce même soleil dominera largement le ciel de la région. Les maximales grimperont progressivement jusqu'à atteindre, voire même dépasser les 30 degrés en fin de semaine. Une première collecte biennoise pour Vélafrica, l'association qui récolte chaque année plus de 40 000 vélos, organise pour la première fois un ramassage dans la cité célandaise. Ça se passe du 17 au 19 juin. Les personnes possédant une bicyclette usagée qu'ils n'utilisent plus pourront ainsi lui offrir une deuxième vie en Afrique, dans des pays comme la Tanzanie, le Burkina Faso ou Madagascar. Théodore Perriard, responsable communication pour Vélafrica, nous détaille les critères que les vélos doivent remplir pour être acceptés.
Vélafrica accepte tous les types de vélos, indépendamment de leur taille, du âge ou de l'état. Nous ne collectons pas les scooters, pas les planches à roulettes ou les remorques pour vélos. Et puis, lors des actions de collecte, nous ne pouvons malheureusement pas accepter les vélos à assistance électrique, ni les vélos spéciaux, par exemple les tandems, les vélos couchés ou les tricycles. Mais vous pouvez toutefois déposer vos vélos électriques à tout moment dans un point de collecte de Vélafrica.
Une fois que vous aurez collecté ces vélos, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont tout d'abord contrôlés, réparés ou ils sont envoyés directement?
En Suisse, avec l'aide de partenaires et de bénévoles, Vélafrica collecte plus de 40 000 vélos chaque année. Et puis ceux-ci sont réparés dans des institutions sociales d'insertion professionnelle et des institutions d'exécution de peine, et puis remis en état pour l'exportation.
À noter que le délai d'inscription court jusqu'à demain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire directement sur le site velafrica.ch. Précisons qu'une fois ce délai passé, des points de dépôt resteront disponibles à Bienne durant le reste de l'année. Un acte de vandalisme a été commis dans la nuit de samedi à dimanche contre la banque Raiffeisen à Tramelan. Une vitrine et une porte ont notamment été endommagées. Contactée hier après-midi, la police cantonale bernoise confirme l'information. Elle souligne en revanche qu'il ne s'agit pas d'une tentative de brigandage, mais bien uniquement de dommages à la propriété. L'identité du ou des auteurs et le montant des dégâts n'a pas été communiqué. L'opération de Nage en Page est de retour pour une 9e édition. Cette initiative, mise sur pied depuis 2017 par la médiathèque du Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan et l'association des livres en liberté, propose à la population une cabane à livres à la piscine du château durant toute la saison estivale. Lucie Etienne, responsable de la médiathèque du CIP et du département culture, nous explique comment cette collaboration s'articule.
Les responsables des livres en liberté sélectionnent les livres, plutôt les romans, à mettre à disposition. Nous, on sélectionne plutôt ce qui est bande dessinée, ce qui est livre pour enfants. Et puis, on va installer en fait la cabane en début de saison, dès qu'il fait un petit peu beau et que la piscine ouvre. Et puis, ensuite, on organise un compte le début juillet, en fait, durant les vacances scolaires, pour permettre vraiment de mettre en avant cette collaboration.
On le sait, il y a des centaines de livres qui circulent un peu partout dans le village, dans la commune, déposés dans des lieux publics, les gares, différents commerces. Là, depuis quelques années, il y en a aussi à la piscine. Est-ce que, selon vous, c'est le bon endroit pour s'adonner à la lecture?
C'est le meilleur endroit. Enfin, c'est un des meilleurs endroits, vu qu'on flâne, on mange une glace, on passe pas souvent notre après-midi dans l'eau. Donc, c'est vraiment l'occasion de feuilleter des magazines ou de commencer un roman ou terminer un roman. Je pense qu'on le voit vraiment que la cabane a son utilité de par le fait qu'elle est toujours en désordre. Il faut vraiment passer régulièrement. Donc, c'est que les gens aiment farfouiller, aiment aller là-dedans. En plus, c'est gratuit, ouvert à tous. Donc, c'est, je pense, un très, très bon endroit, effectivement.
C'était Lucie Etienne, responsable de la médiathèque du CIP et du département culture. La cabane à livres restera en place jusqu'à la fermeture de la piscine de Tramelan, prévue à la mi-septembre. L'après-midi compte aura lieu le 9 juillet à 15h. L'événement est gratuit. À noter qu'une offre similaire est aussi proposée à la piscine de Moutier. À Saint-Imier, des livres seront également mis prochainement à la disposition du public dans le courant de la saison. Environ 400 personnes réunies pour la première édition de Connexion Lumière. Ce rassemblement spirituel s'est tenu tout le week-end de Pentecôte sur les hauteurs des Écorcheresses, au lieu dit Sur le Rocher. Organisé par un comité de chrétiens de la région, l'événement avait pour but de rassembler autour de la parole de Dieu dans un esprit d'ouverture. Le comité d'organisation dresse un bilan très positif de cette première expérience, malgré une météo capricieuse. Il n'écarte pas l'idée de remettre ça l'an prochain. Malgré la pluie, la foire de Corgémont a fait le plein ce week-end. Près de 1000 personnes ont bravé le mauvais temps pour faire la fête sur le plateau de la gare. Cocktails, concerts, animations sportives et cuisine locale ont rythmé cette 35e édition. En point d'orgue, une nuit de folie jusqu'à 4h du matin samedi. Seul bémol, les averses ont fait fuir une partie des marchands. Et puis un week-end plutôt gris, mais quand même réussi à Mont-Soleil. Malgré une météo peu clémente, les visiteurs ont répondu présents pour les portes ouvertes autour de la centrale solaire, particulièrement hier après le retour du soleil. Au total, la manifestation a rassemblé entre 300 et 400 personnes sur le week-end. Les organisateurs dressent un bilan positif et envisagent déjà une nouvelle édition en 2026. Il en faut plus pour nous décourager, ce sont les mots des bénévoles engagés dans le montage de Festineuche. Malgré la pluie de ces derniers jours, ils ont répondu présents sur les jeunes rives à Neuchâtel, car il en faut des bras pour construire les quatre scènes, les bars et autres tentes qui accueilleront les festivaliers dès jeudi prochain. Le festival peut compter cette année sur 1600 bénévoles pour le montage, le démontage ainsi que pendant le week-end du festival. Les conditions de la semaine dernière n'ont pas été faciles, comme le relève Antonin Rousseau, directeur et programmateur du festival.
Il y a des petits coups de mou, je crois, vraiment, ceux qui dorment, notamment sur le site des Jeunes Rives. C'est vrai que c'est des fois un peu plus difficile de se motiver le matin pour se réveiller, sortir de sa tente quand il pleut des trompes d'eau. Mais je crois qu'il y a vraiment un esprit qui est incroyable. Je crois qu'on voit ça rarement ailleurs. Un tel chantier colossal, une telle envergure, cette ville éphémère qui se monte à la force des bras de tant de bénévoles, c'est quelque chose qui est absolument magnifique et remarquable.
Une bonne ambiance aussi décrite par les bénévoles qui travaillaient sous la pluie une bonne partie du week-end. Nous sommes allés à leur rencontre.
Je m'appelle Romain Morel, je suis responsable du secteur bois et je m'occupe de la menuiserie sur le site et de l'ensemble des pièces en bois.
Entre bénévoles, la motivation, elle baisse pas même sous la pluie ?
C'est incroyable, non ? Elle baisse pas, les gens sont là, on a très peu de gens qui se désistent le jour même. Et du coup, je sais pas comment ils font, ils sont souriants, ils sont de bonne humeur et sans eux, on n'aurait pas de festival. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que je viens en tant que responsable pour mes bénévoles et moins pour le festival parce qu'en fait, ils sont toujours joyeux et c'est fantastique.
J'imagine qu'il y a des moments où on travaille, mais il y a aussi des moments où on se détend un petit peu.
Il y a des moments où on se détend un petit peu, mais c'est surtout énormément d'entraide, de la bienveillance et surtout du respect. Et quand on voit quelqu'un qui est en galère, même si on est en retard, on va aller aider parce qu'on sait qu'un autre viendra nous aider. C'est ça qui fait cette famille et on se retrouve après les journées, pendant les journées. Et c'est ça qui est beau, il y a une grosse unité de groupe.
Je m'appelle José, je travaille au magasin d'outillage de l'infrastructure à Festineuche depuis 18 ans. C'est pour ça que personnellement je suis là depuis 18 ans. Si ce n'était pas sympa, je ne reviendrai pas. Donc oui, non, c'est super sympa, une bonne ambiance. De tous les âges, on doit être peut-être un peu dans les plus vieux, mais on s'entend super bien, même avec les jeunes, c'est très sympa.
Des propos recueillis par Cléa Robert. À noter que malgré la pluie, les bénévoles n'ont pas pris trop de retard. Tout devrait donc être prêt jeudi pour l'ouverture de cette 24e édition de Festineuche, qui devrait en principe se dérouler sous le soleil. Un succès historique pour la Bible de Moutier-Grandval à Delémont. Plus de 18 000 visiteurs sont venus admirer ce trésor du 9e siècle exposé pendant 3 mois au musée jurassien. L'œuvre prêtée par la British Library repart donc à Londres malgré une forte demande et des créneaux complets. À noter que les conditions de son retour outre-Manche restent secrètes. Blatten, le village valaisan détruit par un éboulement le 28 mai dernier, ne figurait pas en zone à risque sur les cartes officielles. En cause, un événement trop rare pour être anticipé, selon les experts. En Suisse, une maison sur 6 est menacée par un danger naturel, le plus courant étant l'inondation, d'après une récente évaluation de la Banque cantonale de Zurich. Le Valais fait partie des cantons les plus exposés, juste derrière Glaris. Dans l'actualité internationale, la Russie a lancé la nuit dernière 479 drones explosifs, un chiffre jamais atteint depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. L'armée ukrainienne en a abattu 460 ainsi que 19 missiles sur 20. Kiev réclame toujours un cessez-le-feu refusé par Moscou qui craint un réarmement ukrainien. À noter qu'un échange de prisonniers est aussi prévu cette semaine. Et puis aux États-Unis, après 3 jours de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, le centre-ville de Los Angeles est désormais interdit au rassemblement. Le président américain Donald Trump a réclamé l'envoi de troupes. 2000 membres de la garde nationale sont déjà sur place. On dénombre une 60aine d'arrestations, plusieurs blessés et des voitures incendiées. Le gouverneur californien démocrate Gavin Newsom appelle au calme et accuse Trump de chercher le chaos pour marquer des points politiques.
Et à 12h25, c'est l'heure du sport. RJB
Sport. Un match complètement fou samedi soir en finale de la Coupe bernoise. Azzurri Bienne s'est imposé face au FC Frutigen au bout du suspense grâce à un arrêt de Pablo Molina sur le 18e tir au but. Sous des trompes d'eau et sur un terrain détrempé, les Biennois ont arraché la victoire 3-3 puis au tir au but, décrochant ainsi leur billet pour la Coupe de Suisse. Impérial, indestructible, Carlos Alcaraz a remporté hier une finale de légende à Roland-Garros face à Yannick Sinner. Après 5h29 de combat, le tennisman espagnol s'est imposé en 5-7 et sauve 3 balles de match dans le 4e set pour signer une remontada historique. Score final 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. À 21 ans, Carlos Alcaraz conserve donc son titre à Paris et reste invaincu en finale de Grand Chelem. Enfin, en football, le Portugal remporte la Ligue des Nations au bout du suspense. 6 ans après son sacre inaugural, les Lusitaniens s'imposent de nouveau en Ligue des Nations, cette fois à Munich, face à l'Espagne tenante du titre. Après un match haletant conclu sur leur score de 2-2 à l'issue des prolongations, les Portugais ont finalement triomphé 5-3 au tir au but. Sur la 3e marche du podium, on retrouve l'équipe de France. Les Bleus ont battu l'Allemagne 2-0 hier après-midi dans la petite finale à Stuttgart. Voilà qui marque la fin de ces informations. Je vous souhaite un bon appétit et vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 18h. RJB Sport.